C'est le début de la saison des prix littéraires en France et on est très heureux d'accueillir jusqu'à 9h les lauréats des prix Goncourt et Renaudot décernés hier à la mi-journée. Éric Vuillard, Olivier Guez, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et félicitations, vous pouvez sourire, hein, c'est le jour ou jamais. Avec nous aussi en studio, et je suis absolument tétanisé de parler de livres devant lui, Bernard Pivot, bonjour.
Bonjour.
Président de l'Académie Goncourt.
Oui, oui, oui.
Et de la République des Lettres.
Il faut bien accepter, il faut bien assumer.
Vous êtes sûr que vous voulez pas faire l'interview de d'Olivier Guez et d'Éric Vuillard?
Non, non, parce que vous êtes un très bon intervieweur.
Oh, c'est gentil.
Et que ce n'est plus de mon âge.
Ça vous aurait rappelé de bons souvenirs. Alors, le Goncourt, c'est pour vous, Éric Vuillard. L'ordre du jour chez Actes Sud. Le Renaudot pour vous, Olivier Guez. La disparition de Joseph Mengele chez Grasset. Bernard Pivot, vous tweetiez hier la chose suivante. Cohérence des prix Goncourt et Renaudot. L'ordre du jour, la montée du nazisme, la disparition de Joseph Mengele, son agonie planquée. Comment en êtes-vous venu, Éric Vuillard, à écrire sur la montée du nazisme ?
On reconstruit toujours un petit peu à posteriori les raisons qui nous ont fait écrire un livre ou fait des choses importantes dans notre vie, enfin qui nous tiennent à cœur. Mais l'histoire que je me raconte est qu'en relisant les mémoires de Churchill, enfin une version condensée qu'on m'avait offerte, eh bien je suis tombé sur ce passage qui m'avait pas frappé à la première lecture, d'une panne de moteur de l'armée allemande entrant en Autriche pendant l'Anschluss. Et à ce moment-là, enfin avec les connaissances du coup qui étaient les miennes un petit peu avec l'âge, je me suis dit que ça reconfigurait quand même le rapport qu'on pouvait avoir par exemple à la politique d'apaisement. On ne pouvait plus considérer de la même manière cette volonté de paix durable de la part des élites anglaises et françaises, compte tenu du fait que l'armée allemande était tellement impréparée en 38.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous montrez que ce qui semble être a posteriori le rouleau compresseur de l'histoire, bah, c'était bricolé.
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'armée, d'un point de vue technique, n'était pas prête, mais aussi parce que c'est une opération parfaitement improvisée. On peut pas faire venir des tanks de plusieurs centaines de kilomètres comme ça, un beau matin, sans qu'il y en ait beaucoup qui tombent en panne.
Et chez vous, Olivier Guez, le travail sur le nazisme et l'Allemagne d'après le nazisme n'est pas nouveau, mais pourquoi continuez-vous à creuser ce sillon ?
Parce que je pense en fait que D'abord la période 39-45, mais plus globalement la période 14-45, qui pour moi est la guerre civile européenne, la deuxième guerre de 30 ans, constitue une césure civilisationnelle gigantesque. Je pense qu'on est toujours à la phase 2 ou la phase 3 de cette après-guerre. Et après avoir examiné, raconté l'histoire des victimes au pays des meurtriers, qui était un livre il y a 10 ans qui s'appelait L'impossible retour, cette fois j'ai voulu examiner la face noire de cette histoire-là, avec un meurtrier emblématique de ce qu'a été cette période, évidemment, de ce que fut le nazisme, à savoir donc l'histoire de Joseph Mengele après
l'ange
la guerre.
De la mort.
Exactement, c'est-à-dire Mengele après Mengele.
Qu'a-t-il fait, pour ceux qui ne le sauraient pas?
Donc Mengele est connu pour deux choses. Donc c'était un médecin SS, c'était pas le médecin chef d'Auschwitz, mais c'était un des médecins d'Auschwitz. La première, c'est qu'il triait avec joie et décontraction, dirais-je, les juifs qui arrivaient sur la rampe d'Auschwitz. Et surtout, il est connu pour ses expériences, notamment sur les enfants et notamment sur les jumeaux. Et donc, il quitte Auschwitz en janvier 45. Il se cache en Bavière pendant 4 ans et il part en Argentine en 1949. Et donc, moi, je raconte, Mengele après Mengele, qu'est-ce que la vie a réservé à Joseph Mengele à partir du moment où il arrive en Argentine en 1949.
Qu'est-ce qui fascine, je suis désolé pour la formulation de la question, qu'est-ce qui fascine un écrivain dans le nazisme? Est-ce que le nazisme est monstrueux, mais fascinant, monstrueux donc fascinant? Éric Vuillard.
Je pense pas en l'occurrence que mon livre soit un livre sur le nazisme à proprement parler, mais il est sur les prémices en tout cas de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui,
simplement, ce que je crois, c'est que le
sur les réparations, il est
voilà,
quand
oui, tout
même
à fait, bien sûr,
extraordinairement dur.
Oui, c'est que la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah sont aujourd'hui au cœur de notre savoir. C'est-à-dire, notre savoir se redéploie sans cesse en fait autour d'événements. Les idées ne vivent pas dans un monde abstrait. Elles s'incarnent dans les faits. Et donc, la Deuxième Guerre mondiale a été un drame d'une telle ampleur que tout notre savoir, je crois, s'est redistribué autour et qu'aujourd'hui, elle est au cœur d'un point de vue tant politique qu'éthique, c'est-à-dire nous ramenons sans cesse pour des réflexions importantes concernant, par exemple, le degré de conscience que nous avons des événements qui se produisent au quotidien, dont nous sommes les contemporains, le degré de responsabilité. Nous ne pouvons pas nous empêcher de le ramener à ces faits. C'est en cela, je crois, que ça reste un événement pour nous central.
Parlez-nous de la scène d'ouverture, Éric Vuillard, de ce à quoi rêve l'oligarchie et les grands patrons allemands en 1933.
Ils rêvent comme d'habitude que les coûts soient les coûts du travail. Voilà, le coût du travail, le célèbre coût du travail, soit écrasé. Et donc, en l'occurrence, ils craignent évidemment un nouveau régime s'installe. Ils veulent négocier avec lui en quelque sorte. Et donc, comme
ils parient sur la liquidation de la démocratie. Hein, c'est comme à la bourse.
Oui, tout à fait. Enfin, je crois d'ailleurs, on voit bien. Enfin, le d'un côté, on voit que le capitalisme s'adosse plutôt à la démocratie libérale, qui lui est favorable, mais pas seulement. Il s'adosse au fond à tous les régimes, on l'a vu, et puis ces grandes entreprises qui deviennent elles-mêmes des puissances tutélaires, en fait, peuvent effectivement liquider des régimes, survivre. D'ailleurs, on voit que non seulement dans le livre, elles liquident la République de Weimar, mais elles survivent évidemment au régime nazi lui-même.
Mais ils n'ont pas changé, dites-vous.
Non, je ne crois pas.
L'oligarchie n'a pas changé.
Je crois surtout que d'abord, la loi de l'économie, d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend en sciences économiques, c'est qu'au fond, la loi du profit est sans morale. On nous dit même que c'est parce qu'elle est sans morale qu'en fin de compte, elle serait bénéfique à tous. C'est l'essence même de l'homo economicus. Et puis par ailleurs, je crois que si on fait simplement du Montesquieu, disons, bas de gamme, nous savons tous que la concentration des pouvoirs non séparés, c'est une chose dangereuse. Or, on voit bien que les pouvoirs économiques ont une tendance très forte à se concentrer.
Olivier Guesse, votre livre aussi résonne subtilement avec le monde qui est le nôtre, le monde du lecteur, donc. De quelle manière ? Parce que c'est toujours très difficile de dire « Regardez l'Allemagne nazie, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est compliqué, au monde des extrêmes aussi, donc, est-ce le même monde ?» Non, vous le faites de manière beaucoup plus subtile pour dire quoi ? Pour suggérer quoi ?
Alors, déjà, il croise... Mengele croise notre monde parce que finalement on a une image de lui en noir et blanc, très jeune donc à Auschwitz, et très souvent on pense aux nazis extrêmement âgés, 70, 80 ans, mais en fait ce qui est très intéressant c'est que Mengele croise notre modernité et qu'on va passer d'un personnage en noir et blanc à quelqu'un qu'on va recroiser dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, et il y a une scène dans le livre qu'on m'a racontée lorsque j'étais au Brésil qui pour moi symbolise en fait cet étrange croisement de nos modernités. Donc Mengele s'est réfugié au Brésil pendant presque 20 ans, et notamment dans une ferme dans l'état de Sao Paulo. Et il était dans une famille de fermiers hongrois. Et ces fermiers hongrois avaient deux garçons. Moi, j'ai rencontré par hasard, dans le village d'à côté, le meilleur ami d'un de ces deux garçons. Et Mengele avait fait construire un mirador. Il avait installé un électrophone comme tous les gens de sa génération venant d'une bonne famille écoutaient de la musique classique sur son mirador. Et cet homme que j'ai croisé me racontait en fait que dès qu'il avait le dos tourné, les gamins et lui, tous les samedis, montaient au mirador pour écouter un disque des Beatles. Et ce croisement improbable de la modernité entre Mengele, l'ange de la mort d'Auschwitz, et notre modernité, c'est-à-dire les Beatles, les années 60, et ça va jusqu'aux années 70, et ça va même jusqu'aux années 80, puisqu'on découvre sa dépouille seulement en 1985, fait que Mengele nous hante encore, d'une certaine manière.
C'est une longue enquête sur la disparition, donc, de cet homme. Vous entrez dans sa tête, vous essayez de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, essayez de voir comment il pense, à quoi il peut penser... Comment il éprouve un certain nombre de moments. On sort dans quel état d'une expérience intellectuelle de cette nature, Olivier Guesse ?
C'est assez particulier, on va dire, de se réveiller tous les matins en pensant à Joseph Mengele, et d'ailleurs de continuer à en parler quasiment quotidiennement. Je crois qu'il y a eu trois phases dans ce livre. La première a été de tourner autour de Mengele, c'est-à-dire je ne voulais pas être la marionnette de Mengele. Donc j'ai lu sur les grands criminels, j'ai lu aussi comment on avait pu écrire des histoires sur des grands criminels, sur le sadisme, etc. Mais à un moment, et c'est là qu'a commencé la deuxième phase, c'est-à-dire il a fallu monter sur le ring avec Mengele, c'est-à-dire il a vraiment fallu l'affronter. Donc il a vraiment fallu lire sur Joseph Mengele, des biographies, évidemment sur lui, mais également sur la médecine nazie, et pire que tout, sur la médecine nazie dans les camps de concentration.
On se remet pas de ces passages.
Et là, c'est absolument vertigineux. Et j'ai notamment découvert le livre d'un médecin hongrois qui a eu le malheur d'être le scalpel de Mengele dans l'un des crématoriums d'Auschwitz. C'est un livre qui est sorti en France en 61 chez Julliard, qui n'est plus trouvable aujourd'hui, que j'ai trouvé dans une bibliothèque. Et là, il y a des passages qui sont absolument hallucinant. Je n'oublierai jamais quand j'ai découvert, quand j'ai lu ce livre, c'est dans un train en Allemagne d'ailleurs, et d'ailleurs je cite ce médecin, parce que je ne pouvais pas faire de littérature sur Mengele à Auschwitz. Et donc ça a été la deuxième phase, qui a été très compliquée. Et puis après, lorsque j'ai compris quelle avait été sa trajectoire, et notamment l'homme pathétique et très très médiocre qu'il était, quelque part j'ai repris le dessus et je suis devenu d'une certaine manière le marionnettiste de Mengele en Amérique du Sud. Et là, peut-être que je me suis accroché à ça, ou peut-être que j'ai aussi éprouvé un espèce de plaisir pervers à mon tour de torturer Mengele, en tout cas de raconter sa chute abyssale jusqu'à sa mort solitaire et très, très malheureuse pour lui. Dans le sens, c'était un homme très malheureux, très solitaire, pathétique, très paranoïaque. Et ce huis clos aussi, cette espèce de descente aux enfers, la façon dont Mengele s'autodévore au fil du temps, avait peut-être quelque chose de jouissif.
A tout de suite, messieurs, on vous retrouve juste après la revue de presse de France Inter. Il est 8h33.